Bref. Père, nous pouvons t'appeler ainsi parce que tu nous as parlé, parce que des croyants nous ont transmis à la fois leur expérience, leur témoignage, leur vie transformée. Et nous aussi, grâce à eux, et parfois même directement, nous avons reçu de toi le fait que nous sommes importants. Importants à tes yeux, que chacun, chacune d'entre nous a son rôle, a son identité en toi. Nous te remercions d'avoir donné Jésus-Christ pour que la proximité soit la plus grande avec nous. Tu nous l'as dit dans ce livre, tu nous invites à découvrir le trésor que tu y as mis pour chacune, chacun de nous. Fais-nous maintenant cette grâce. Amen. Alors d'abord, j'aimerais partager avec vous dans le livre des rois, dans un roi. Alors j'ai vu tout à l'heure que vous avez bougé ça. Je vais essayer. Parfois, ça m'arrive de casser, mais j'espère que ce ne sera pas le cas aujourd'hui. Ah voilà, très bien. Parfait. Donc dans un roi 19. Un texte que vous connaissez, que vous allez reconnaître. Et c'est Élie qui a fait passer par les armes certains prophètes. Et il est maintenant poursuivi et il est absolument découragé. Dans un premier temps, l'Éternel, par l'intermédiaire de son ange, lui donne à manger, lui redonne des forces pour marcher 40 jours et 40 nuits. Et puis, au moment où commence notre récit, il entre dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée des prophètes, et je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure, un silence doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu joindras Hazaël pour roi de Syrie. Et puis dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 5, un texte que vous connaissez bien aussi, ou que vous allez découvrir, peut-être, on ne sait jamais, si quelqu'un entre dans ce temple ce matin et qui n'a pas encore entendu cette parole, ce sera une découverte, et une découverte forte comme elle l'est pour chacune et chacun d'entre nous, y compris avec les textes que nous avons déjà entendus. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit: Heureux ceux qui cherchent l'esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsque l'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. J'aimerais ce matin réfléchir avec vous sur la manière dont nous comprenons à la fois le temps qui passe, le temps qui est et le temps qui sera. En effet, souvent, nous mélangeons ces trois temps, nous les prenons comme étant indistincts. Souvent, cela a du sens. Mais parfois, nous réduisons notre conception de la vie, notre vie elle-même, à ce que nous ressentons à un moment T, à un moment donné, et nous sommes complètement pris dans ce temps-là. Tout semble s'arrêter. À la fois ce qui a déjà été vécu dans la foi par ceux qui nous ont précédés, ainsi que dans notre propre vie, tout cela est oublié. Mais aussi le futur, tout ce qui est promis, tout ce qui est en vue, tout ce qui est vrai, puisqu'annoncé par le Seigneur. Ce temps figé, on en a un exemple avec le prophète Élie, dans le juste avant, avant qu'il ne reçoive la nourriture, il dit, il est épuisé, il dit, c'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Et il demande à ce moment-là à être retiré de la vie. Il oublie à ce moment-là parce qu'il est entièrement pris dans ce qu'il vit, et on le comprend, être poursuivi, être affamé, être sans force, vient introduire cette désespérance. Et voyez comme le Seigneur est bon, il vient et il lui donne ce dont il a le plus besoin à ce moment-là, avant même la rencontre qui va suivre, il lui donne de quoi retrouver des forces, de quoi être remis debout, mais de manière, j'allais dire, pragmatique, de la manière la plus humaine qui soit, avant même de le rencontrer, avant même de le remettre debout dans sa mission, dans ce qu'il a à faire et aussi dans son être, il est d'abord entendu à ce niveau-là. On peut, et je ferai quelques parenthèses ainsi, faire un parallèle avec l'hôpital où la personne, lorsqu'elle est soignée, lorsqu'elle est nourrie, c'est le premier temps pour retrouver ce temps d'être debout, d'être remis debout, d'être de nouveau confiant. Ce temps, beaucoup d'entre nous l'ont vécu, c'est un temps où l'on est désorienté, où tout ce qui semblait bien se passer, où tout était en ordre, où tout allait bien, ce temps-là est interrompu. Et du coup, il vient parfois, pas toujours, chacun a son parcours singulier, il vient interroger à la fois sur la vie présente, à la fois sur la manière de comprendre cette possibilité d'être en présence de Dieu, y compris lorsque tout semble s'effondrer. Il est d'abord rassasié. Il retrouve des forces physiques. Et ensuite, il lui est donné cette rencontre. Cette rencontre au présent, cette rencontre qui vient le décaler. En effet, lorsque Dieu lui dit qu'il va venir, il y a ces trois éléments que vous avez entendus. Le vent qui déchire les montagnes et brise les rochers. La puissance par excellence. Ensuite, le tremblement de terre et ensuite le feu. Mais vous remarquez qu'Élie ne se laisse pas entraîner par ces manifestations, car ce n'est que lorsqu'il entend le murmure doux et léger qu'il s'enveloppe le visage et qu'il vient dire, qu'il vient reconnaître la présence. Ce murmure doux et léger, cette présence du Christ, de Dieu à ce moment-là et du Christ pour nous aujourd'hui qui nous renvoie à Dieu, eh bien, il est là, il est présent, mais il vient à notre rencontre dans ce que nous avons de plus fragile. Il vient, il ne s'impose pas, il est réellement présent. Mais sa présence se fait douceur et murmure pour que nous ayons accès à lui, qu'il ait accès à nous dans ce temps de la difficulté, pour que nous ayons la possibilité de le recevoir. Il ne vient pas à ce moment-là comme conquérant, comme celui qui va imposer, mais bien comme quelqu'un qui va nous toucher au plus profond de nous. Et vous savez combien les transformations personnelles les plus profondes, celles qui ont le plus d'impact, sont celles qui nous sont dites avec clarté, avec fermeté, mais aussi avec amour. Et aussi avec cette possibilité de recevoir ce qui est donné. C'est particulièrement vrai pour les adolescents, c'est particulièrement vrai aussi pour chacun d'entre nous. Combien nous n'aimons pas, j'allais dire à juste titre, qu'on vienne nous dire ce que nous avons à faire, ou que l'on vienne nous dire à un moment donné, voilà, c'est ça, ce n'est pas ça. Mais si dans une parole d'amour, quelque chose s'éclaire, si la personne à nos côtés vient ouvrir notre cœur de la part du Christ, si cela se fait avec délicatesse, eh bien là, souvent, je l'ai constaté, les évolutions peuvent se faire. Alors attention, je ne dis pas que le Christ a une seule manière de nous rencontrer. Parfois, il faut des électrochocs, il faut des rencontres qui soient qui se fasse choc et qui fasse sens. Mais, et je dirais peut-être encore plus dans la période qui est la nôtre, on a du mal avec les paroles qui pourraient nous sembler toutes faites, qui pourraient nous sembler, j'allais dire, superficielles, même si la personne qui les dit avec beaucoup de conviction. Les paroles qui viendraient ne pas nous comprendre. Alors, j'ai commencé tout à l'heure en vous parlant du temps. Et dans les Béatitudes, il me semble que si vous connaissez ce texte, vous pensez, comme on le pense souvent au départ, que c'est un texte qui parle au futur. Et en particulier pour ce passage, heureux ceux qui pleurent, heureux les affligés, car ils seront consolés. Et toutes les phrases semblent être au futur. Mais si on regarde de près, et ça a été, lorsque j'en ai pris pleinement conscience, enfin en partie conscience, on n'a jamais pleinement conscience des textes de l'Évangile, c'est que ce qui entoure cet ensemble, eh bien, est au présent. Heureux. Alors, on dit parfois les pauvres d'esprit, mais le terme, c'est ceux qui cherchent. C'est le mot en grec, bon, je m'en souviens depuis la faculté. C'est le mot qui dit le mendiant, celui qui cherche, celui qui attend, celui qui reçoit. Donc, ceux qui reçoivent l'esprit, ceux qui le cherchent, le royaume des cieux est à eux. C'est un présent. Et à la fin aussi, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Le futur, tout ce qui est au milieu, j'allais dire, vient rendre présent, vient rendre possible, vient rendre crédible, vient rendre comme une espérance absolument sûre ce qui va être dit. Et ça vient, je reprends ce que je disais tout à l'heure, nous sortir du fait que parfois le présent est tellement présent qu'il nous fait tout oublier. À la fois ce que nous avons vécu en Christ avant, ce que nous est promis ensuite, parfois tout cela est oublié. Parfois des moments très courts et parfois des moments plus longs de questionnement, d'étonnement, de remise en question. De savoir si ce qui a été fait a été à la hauteur, toutes ces questions qui viennent nous rejoindre, nous tourmenter. Mais ce futur qui est là et qui vient donc ancrer notre présent dans la présence du Christ, eh bien, il est source, il est possibilité de transformation. Lorsque le texte dit heureux ceux qui pleurent, heureux les affligés, ce n'est pas en soi parce qu'ils pleurent, mais parce qu'il y a cette promesse de changement, car ils seront consolés. Et ainsi de suite, et vous avez peut-être entendu à la lecture, et peut-être l'avez-vous déjà retenu, qu'il y a des choses dont la réponse appartient à ce qui est fait. Par exemple, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. C'est-à-dire ce que celles et ceux qui entrent dans ce combat, qui les fait sortir d'eux-mêmes pour suivre le Christ et de se contenter d'aucune, ne se résigner à aucune injustice, eh bien, ils verront triompher la justice. Ils seront rassasiés. Vous entendez ce mot qui est la plénitude dans ce qui est reçu. Mais il y a aussi des termes qui sont du même ordre. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Là aussi, sur le même registre. Heureux ceux qui ont le cœur pur, et là on entre dans la relation avec Dieu, car ils verront Dieu. Il y a quelque chose qui se joue là, qui devient possibilité d'être pleinement appelé fils de Dieu, d'être pleinement en relation avec Dieu. Ceux qui ont le cœur pur verront Dieu, ceux qui procurent la paix seront appelés fils de Dieu. il y a un certain nombre de dispositions, de manières d'être qui vont permettre cette relation encore plus profonde avec Dieu et qui vont manifester cela. Le présent, qui est employé au début et à la fin, vient dire que tout n'est pas réalisé, mais c'est déjà en route maintenant. C'est déjà réel, c'est déjà bien là dans nos vies. Et cette tension qui vient habiter nos vies quand des moments nous semblent loin de tout cela, eh bien, c'est là où le futur vient dire que cela n'est pas terminé, que cela va permettre en Christ d'être renouvelé et d'être remis dans cette dimension du royaume des cieux. Alors, on a laissé Élie dans sa rencontre. Par deux fois, Élie a été interrogé. Vous remarquez que deux fois, il lui est posé la question, deux fois, il peut répondre ce qu'il a à cœur. Et c'est étonnant parce que c'est la même question, c'est la même réponse. Et ça, c'est très intéressant, il me semble. C'est que à ce moment-là, quand il est interrogé, il peut répondre ce qu'il ressent. Et le fait d'être interrogé une deuxième fois, alors parfois on pourrait dire, bah, il n'a pas bien écouté. Là, je pense que c'est plutôt, ça marque l'intérêt avant la mission de Dieu, de l'Éternel, pour Élie, pour ce qu'il ressent, pour ce qu'il vit, pour le passage très délicat qu'il va passer. Et ensuite vient la mission, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras, tu viendras et tu oindras donc Azaël. Il va reprendre le chemin. Après le découragement, cette rencontre, j'allais dire, au plus intime, ça ne va pas rester une relation fermée, uniquement centrée sur l'un et l'autre, il va de nouveau être appelé à agir, et même de manière très forte à ce moment-là. Vous voyez, donc la réponse physique, la nourriture, la rencontre personnelle, interpersonnelle avec le Seigneur, et ensuite, non pas l'enfermement sur soi-même et sur Dieu, mais aller vers les autres. Et de même, dans ce sermon sur la montagne qui ouvre à un futur, et ce futur est déjà dans le présent, eh bien, ça ouvre à la possibilité et à la nécessité et à la mission d'être à la fois celle de la terre et lumière du monde. Et là aussi, hein, on a introduit ça avec les champions qui parfois peuvent nous éclairer, nous fasciner, mais là on nous rappelle bien que cette lumière qui va être partagée, qui va être donnée, elle n'est pas pour nous-mêmes. Elle n'est pas pour en tirer un bénéfice, et c'est peut-être là une des différences, c'est que ça va permettre que lorsque l'on voit ce qui se fait, de renvoyer au Père et ainsi au Fils qui parle, au Fils qui renvoie au Père. Ce présent qui vient être éclairé, redynamisé, qui vient être transformé grâce aussi au futur que donne la promesse, il n'est pas destiné à être uniquement pour nous, même si cela nous remet debout, même si cela nous permet d'être vraiment en relation avec Dieu, on l'a vu par un certain nombre d'exemples, mais à ce moment-là, cela devient une possibilité de témoignage au sens fort, au sens d'être là, témoin de ce qui nous fait vivre, de ce qui nous interpelle. Si quelqu'un d'autre veut faire une petite promenade. Chers amis, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, Le fait d'être aumônier en hôpital me permet et me donne cette possibilité de rencontrer chacune, chacun, et certaines d'entre vous dans cette assemblée, et être à la fois à l'écoute et à la fois être porteur de cette présence. En aumônerie, ce qui vient en premier, c'est cette manière, à notre mesure évidemment, et en toute modestie, vous l'avez dit, en toute humilité, à plusieurs reprises dans la liturgie, c'est d'être là, présent, pour entendre ce qui vient interpeller, ce qui vient faire souffrir, et ensuite, à l'écoute ensemble de la parole, être relevé. Il ne s'agit pas de venir faire une leçon en disant, ah, on ne peut pas dire ça, on ne peut pas croire ça, on ne peut pas être faible à ce moment-là. C'est de dire, ben, qu'est-ce que nous puisons ensemble? Qu'est-ce que nous puisons ensemble dans la parole de Dieu, dans l'Écriture qui devient parole vivante pour nous, pour être et relevé? Bien, ces textes et bien sûr l'ensemble de l'Évangile nous parlent dans ce sens. Je vous remercie d'avoir pu partager cela ce matin et je vous encourage à être à la fois aussi dans l'écoute et dans la présence. Amen.